Chapitre 1 Stratégie. Que ce soit pour fonder un empire, sauver une société d'une mort certaine ou conserver un avantage concurrentiel, des visionnaires ont créé la surprise en se positionnant là où on ne les attendait pas et en sortant systématiquement des sentiers battus. François-Henri Pinault, PDG de Kering. Comment j'ai fait pour faire prospérer les marques que nous avions acquises? Article publié dans Harvard Business Review France en 2014. Un soir de 2003, mon père m'a invité à dîner dans son restaurant préféré à Paris, où nous vivions tous les deux. Il était alors président du directoire d'Artemis, la holding familiale qui contrôle PPR, le conglomérat qu'il avait fondé en 1963, ainsi qu'un éventail d'entreprises comprenant, entre autres, la maison de vente aux enchères Christie's. J'avais terminé mes études à HEC en 1985, je travaillais dans l'entreprise depuis 1987 et j'avais eu 40 ans quelques mois auparavant. Pendant le dîner, mon père m'a annoncé qu'il souhaitait se retirer et me nommer président du conseil d'administration et PDG d'Artemis. Le choix du moment m'a surpris et je lui en ai fait part. « Qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes de travailler ?» lui ai-je demandé. Mais mon père, à 67 ans, venait de voir un de ses amis qui n'avait pas préparé sa succession à la tête de l'entreprise familiale décédé brutalement, et il pensait donc qu'il était temps de passer la main. Le dîner avait eu lieu un jeudi. Lorsque je me suis présenté au siège social le lundi suivant, mon bureau était remeublé et mon père y était installé. « Tu ne travailles plus ici, mais là-bas », m'a-t-il dit en pointant le doigt vers le grand bureau au coin de l'étage qui avait été le sien. Il avait fait réaliser tous les aménagements durant le week-end. En 1992, mon père avait mis en place un processus inhabituel pour m'aider à me préparer à lui succéder. Il avait constitué un groupe de 8 hommes d'affaires d'expérience appelé les « Pinault Trustees ». Leur travail consistait à évaluer dans le temps ma capacité à remplir ces fonctions. Chaque année, je déjeunais en tête-à-tête avec chacun d'eux et nous nous retrouvions tous pour un grand dîner chez mon père. C'étaient des individus extraordinaires et je me considère chanceux de les avoir connus. Mais je n'appréciais pas particulièrement d'être ainsi observé au microscope. En 2001, ils ont finalement décidé que je pouvais convenir comme successeur et le groupe a alors été dissous. 2 ans après avoir repris les rênes d'Artemis, en 2005, je suis également devenu président du conseil d'administration et PDG de PPR, et j'ai été confronté à une question cruciale. Devais-je laisser les choses telles qu'elles étaient sous la direction de mon père, ou devais-je envisager de nouvelles orientations? PPR, rebaptisé Kering en juin 2013, possédait un ensemble d'activités pour le moins éclectiques. Nous produisions des matériaux de construction, nous possédions des magasins dans la grande distribution et des activités de vente par correspondance en Europe de l'Ouest et en Amérique. Nous avions fait l'acquisition de l'entreprise de luxe Gucci Group à travers une série de transactions commencées en 1999. En examinant la situation, j'ai été préoccupé par le fait que nos actifs étaient fortement dépendants de l'Europe de l'Ouest et de la France en particulier. L'entreprise devait se déployer à l'international, générer plus de croissance et augmenter sa rentabilité. Je me suis donc focalisé sur notre segment luxe, vêtements et accessoires, dont le potentiel de croissance à long terme était important. 2 ans plus tard, en 2007, nous avons acquis une participation majoritaire dans Puma et décidé de construire un autre pilier stratégique, dans le segment sport et lifestyle, autour de cette marque. Au cours de la décennie passée, nous avons vendu les autres composantes de l'entreprise originelle et réalisé plusieurs acquisitions destinées à renforcer notre position sur le marché du luxe mondial. Outre Gucci, nous possédons aujourd'hui 16 marques de luxe, dont Alexander McQueen, Brioni, Saint Laurent, Stella McCartney et Bottega Veneta. L'un des facteurs clés de cette expansion réside dans notre capacité à aider les marques dont nous faisons l'acquisition à trouver la bonne manière de se développer à grande échelle. L'opinion se focalise souvent sur la conclusion des accords, mais c'est la façon dont nous pouvons épauler nos marques pour générer leur croissance interne et bénéficier de l'expérience collective du groupe qui représente l'aspect le plus important de notre travail. Lorsque nous nous associons avec des marques telles que Stella McCartney ou Christopher Kane, nous leur donnons accès à une logistique, à des technologies de l'information et à un système de facturation partagé. Nous les aidons à repérer les meilleurs emplacements pour ouvrir des boutiques de prestige. Nous les aidons à recruter les talents qu'il leur faut. Si l'on compare notre situation actuelle à celle qui prévalait avant que nous entamions cette transformation, nous sommes une entreprise plus petite, mais aussi bien plus concentrée et plus rentable. Entre 2003 et 2012, nos ventes ont été réduites de plus de moitié, passant de 24,4 à 9,7 milliards d'euros, mais nos profits ont augmenté d'environ 40%. Nous avons également pris une envergure mondiale. Entre 2007 et 2012, la part de notre chiffre d'affaires réalisé en France est descendue de 41% à 4%. Nous sommes devenus une entreprise complètement différente. Le choix de rétrécir dans une économie mondiale. Lors de mon ascension au sein de l'entreprise, j'avais travaillé dans de nombreuses activités B2B que mon père avait agrégées. J'avais géré une division qui fabriquait des fenêtres. J'avais dirigé notre division Afrique, qui importait et distribuait des véhicules dans 30 pays. Avant l'acquisition de Gucci, je n'avais aucune expérience du luxe, mais j'ai rejoint son conseil d'administration et je me suis familiarisé avec ce secteur. Lorsque je suis devenu PDG de PPR et que j'ai commencé à examiner notre stratégie, je me suis demandé si notre conglomérat faisait encore sens dans une économie mondialisée. Cela a constitué le plus gros changement de ces 15 dernières années. Jusqu'à la fin des années 1990, se développer à l'international restait compliqué. Les entreprises comme la nôtre préféraient donc se diversifier sur des lignes de produits à proximité de leur marché d'origine. Ce problème est moins important pour les entreprises américaines qui bénéficient d'un marché intérieur énorme, mais ce n'est pas le cas en France. PPR avait fini par devenir un conglomérat non pour réaliser un grand dessein, mais parce que mon père accumulait les acquisitions pour alimenter sa croissance. Au moment où je suis devenu PDG, l'entreprise se portait bien, mais les limites de ce modèle étaient atteintes. Pour cette raison, j'ai décidé que la bonne stratégie consistait à se concentrer sur la construction d'un groupe de marques mondiales dans le luxe. Quand j'évoque nos marques, j'évite d'utiliser les termes « portefeuille » et « collection », car je ne pense pas qu'ils reflètent la démarche systématique suivie pour composer notre groupe. Cela donne à notre approche un aspect un peu aléatoire, alors qu'en réalité, elle est plutôt stratégique. Dès le départ, nous avions une idée très claire de ce que nous voulions accomplir. L'une de nos hypothèses primordiales est qu'une marque ne peut pas couvrir tous les segments en termes de prix ou de style. En théorie, nous aurions pu tenter d'étendre la marque Gucci à bien d'autres segments, plutôt que de faire l'acquisition d'autres marques. Mais nous pensions que cela se serait fait aux dépens de ce qui rend Gucci unique, ce que nous appelons son ADN. Nous avons choisi de permettre à plusieurs marques de se compléter les unes les autres, plutôt que de se concurrencer. Aujourd'hui, lorsque nous envisageons une acquisition, nous nous efforçons de nous assurer que la marque sera à même de remplir une mission spécifique au sein du groupe et qu'elle correspond à un segment distinct du marché tel que nous le percevons. Une des grandes manières de faire croître les marques dont nous faisons l'acquisition consiste à les aider à développer leur stratégie de distribution. Lorsque les marques de vêtements de luxe mûrissent, elles dépendent moins des ventes en gros, auprès de grands magasins et de distributeurs indépendants spécialisés, du fait de la création de leur propre réseau de points de vente. En effet, les boutiques de prestige dans des villes comme New York ou Milan sont susceptibles d'attirer une clientèle différente et joue en même temps un rôle publicitaire.